faut revenir à l'histoire. Auparavant, vous avez seulement le Vietnam. Pendant cette période-là, on est sous la domination des Français. La France a perdu une bataille qu'on appelle les Birfou. Ils doivent céder la moitié du Vietnam au nord pour les communistes. Et le sud, on devient comme démocratie.
The Soviet Foreign Minister Molotov made the Viet Minh accept the 17th parallel as the ceasefire line, even though it meant giving up territory to the south.
Bonjour Tibé Nguyen, Zuni Nguyen, ça va bien?
Oui, bien. Bonjour Paloma.
Merci d'être venue à nos studios ici à Radio-Canada International. C'est un plaisir de vous voir ici. On va parler aujourd'hui de Une nuit sans lune. Une nuit sans lune, c'est un documentaire que Tibé, vous avez produit. Et Zuni, vous êtes une des protagonistes du documentaire. Tibé, racontez-nous pourquoi vous avez décidé de faire ce documentaire?
Bien, avant tout, c'est parce que moi-même, je suis une réfugiée Boat People, arrivée au Canada en 1980 avec mes parents. Mais nous, on a fui du Laos. Alors, je crois que c'était une histoire peu connue, surtout des réfugiés qui fuyaient du Laos. Et ça fait quelques années, en effet, que j'y pense, parce qu'aujourd'hui, ayant moi-même des enfants, c'était devenu... C'est comme un cri du cœur qui faisait en sorte que je voulais vraiment transmettre cette histoire à mes enfants, mais aussi en voyant mon père qui encore en souffre aujourd'hui, je voulais lui apporter une genre de lumière d'une certaine façon parce que c'est difficile de lui en parler. Alors, c'est de lui montrer aussi, « Papa, aujourd'hui, regarde ce que nous, on est devenus, tes enfants, avec tout ce sacrifice, ce courage que tu as eu, voici aujourd'hui ce qu'on est devenu. » Alors, c'est de remercier aussi notre terre d'accueil, le Canada. Alors, vous allez tout le voir dans le documentaire. Mais en effet, au tout départ, c'est devenu une quête personnelle. Et après là, ça s'est transformé en un projet de société pour démontrer le vivre ensemble. Mm-hmm. C'est vraiment ça c'est l'évolution, en fait, du projet qui a fait en sorte que c'est devenu ça.
Tibé, quelle est la raison du titre « Une nuit sans lune » ? Est-ce que ça va dévoiler tout le documentaire si vous nous dites la raison?
Mais en fait, je vais vous dire rapidement une petite anecdote. Le titre a été seulement connu à la fin, quand tous les tournages ont été faits. Il faut que je vous dise, je suis la productrice exécutive. Par contre, j'ai travaillé avec une fille extraordinaire, une cinéaste qui s'appelle Marilène Panisset. Elle a une maison de production qui s'appelle Les Films de l'Hydre. Et on a eu la chance de se rencontrer à travers des amis et tout. Et ensemble, en effet, on a mené ce projet-là. Et c'est elle avec une autre productrice qui sont venues avec le titre « Une nuit sans lune » que vous allez découvrir la raison pourquoi quand vous regardez le documentaire. Parce que la raison est dans le documentaire.
Et puis, on va donner toutes les informations aux gens pour qu'ils puissent les voir, soit au moins le trailer et les suivre. Ouais. Mais je sais qu'on peut acheter les DVD maintenant.
Définitivement, il est sorti déjà en DVD, en Blu-ray et même en version 4 USB.
Ah! C'est toutes les possibilités qui sont là, exactement. Pour les gens qui veulent le voir de l'étranger aussi. Zuni, parlons de votre participation à ce documentaire. Nous, on se connaît déjà par d'autres projets qu'on a fait ensemble ici à Radio-Canada, en lien justement avec le 40e anniversaire de l'arrivée des premiers Boat People au Québec, au Canada particulièrement. Mais dites-nous, vous, dans ce documentaire, qu'est-ce que ce documentaire vous apporte en tant qu'immigrante, en tant que réfugiée, en tant que fille des réfugiés aussi?
Ben moi, je vais te dire, écoute, la gratitude que je porte en moi, ma famille, je veux dire, Montréal, le Québec, c'est chez nous. Hein? Alors pour moi, d'avoir cette opportunité, l'opportunité que Thibert et Marie-Hélène m'ont offert, je peux pas dire comment, encore une fois, c'est la gratitude. Mais la gratitude de redonner et de partager mon message puis mon histoire pour que mes enfants, les jeunes enfants, les écoles aujourd'hui qui vont écouter ce documentaire, je dois le faire. Tu sais, c'est un privilège d'avoir été adoptée par ce beau pays. Alors, c'est à moi de... Je dois le faire parce qu'il faut que les prochaines générations comprennent d'où viennent leurs parents et leurs grands-parents, le courage, la persévérance, tout ça, là, il ne faut pas que ça soit noyé quelque part, il faut que ça soit dans un film. Et grâce à Tibi puis à Marie-Hélène Panisset, ben écoute, ça s'est réalisé parce que moi, pendant un bout de temps, depuis les dernières années, on me demande de donner des conférences dans les écoles, dans les associations, et je raconte mon histoire. Mais c'est des petits bouts, tu vois, Mais ce film, Une nuit sans lune, ben là, je l'ai tout raconté, mon histoire. Voilà, c'est du début jusqu'à la fin.
Et puis, il y a d'autres histoires aussi. C'est l'histoire de Zuni, puis il y a des histoires qui racontent un peu le parcours vaste de différentes familles, de différentes personnes. Alors, ça nous donne une idée plus complète, peut-être, Tibet, direz-vous?
Définitivement, ce qu'on voulait vraiment apporter, parce que on le sait, en ayant contact avec tellement de réfugiés, mm-hmm. on savait que les histoires à la fois étaient similaires, mais aussi tous et chacun ont vécu des tragédies, un parcours qui était légèrement différent. Et ce qui était important aussi, c'est de démontrer qu'il y avait des réfugiés Bold People, mais parmi ces réfugiés Bold People, il y avait pas seulement des Vietnamiens, mais il y avait des Laotiens, il y avait des Cambodgiens, parce que la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu des répercussions sur toute l'Indochine, on s'entend, d'où le fait, moi-même, vietnamienne du Laos. Et c'est sûr que toutes ces histoires, c'était de faire comprendre d'où ça provenait.
Exactement.
Et puis de voir après l'histoire des réfugiés. En effet, on a mis de l'avant l'histoire des réfugiés, leur parcours, mais la fin, la moitié du documentaire parlait de la terre d'accueil, de comment les forces armées canadiennes, la base militaire Longue-Pointe, aujourd'hui Garnison Montréal, a reçu plus de 60 000 réfugiés de 1978 à 1981. D'où le fait, il va y avoir une commémoration qui va avoir lieu juste pour les réfugiés qui ont passé par là. Mais ça, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que ça touchait la société en général. C'est qu'aujourd'hui, on voit toutes ces les enfants des réfugiés aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus, des médecins, des dentistes, moi-même qui travaille à la Banque nationale et puis qui m'ont aidé en fait dans ce projet-là. C'était nos premiers, la première institution financière qui nous a soutenus dans le projet. Alors, ça démontre à quel point que je crois les gens, quand ils se mettent ensemble, la société, quand on travaille ensemble, on apporte du positif.
Et Zuni, si on pouvait résumer votre histoire comme étant un des exemples qui est présenté dans le documentaire, dites-nous, vous êtes partie très jeune du Vietnam. Comment ça s'est passé?
Écoute, nous, on est partis vraiment le dernier jour possible, le 30 avril 1975. Alors, il restait un bateau. On était 4000 là-dessus et la capacité, c'était 400 sur ce cargo. 3 jours sur la mer, pas de nourriture, pas d'eau. On a été sauvés par un autre bateau. Et puis, écoute, un camp de réfugiés à Hong Kong. Et puis, 2 mois plus tard, le Canada nous a adoptés. On arrive à Montréal. Et voilà, je veux dire, la vie nous a donné une deuxième chance. Tu comprends? Le Québec nous a accueillis, les bras ouvert. Et c'est pour ça que cette histoire, il faut que ça circule partout, au Québec, au Canada, parce que les gens doivent comprendre qu'il y a eu du courage là-dedans, le courage de ces gens-là qui se sont battus pour leur vie. Moi, écoute, mes parents, c'est mes héros, là. Je veux dire, mes enfants le savent.
Hein? Oui, mais est-ce que vous imaginez votre vie sans être venu ici? Comment vous la... Est-ce que vous pouvez la visualiser, cette vie qui n'a pas eu lieu?
En fait, non, moi, je peux, parce que je suis retournée au Vietnam et j'ai rencontré, en fait, une fille qui allait à l'école avec moi quand j'étais petite au Vietnam. Ah, écoute, aujourd'hui, elle vend des cigarettes, elle vend probablement son corps. Elle est très pauvre, puis écoute, ça aurait pu être nous, là. Écoute, mes parents auraient sûrement été envoyés, je ne sais pas, sans rentrer dans les détails politiques, là, mais je veux dire, non, on n'aurait pas la même vie du tout. Et puis, non, je ne peux même pas. En fait, je te dis ça, mais je ne peux même pas imaginer.
Tibet, il y aurait peut-être une réflexion à faire. Aujourd'hui, le Canada se porte à l'aide aussi des réfugiés qui viennent d'ailleurs. Ce n'est plus le Vietnam, ce n'est plus le Laos, ce n'est plus la Cambodge, mais c'est quand même des gens qui vivent des choses difficiles ailleurs, particulièrement de la Syrie. Le Canada a reçu dans la dernière année au moins 30 000 réfugiés syriens qui sont arrivés au pays par les portes du système des réfuges du Canada. Donc, quelle réflexion vous faites par rapport à cette nouvelle réalité?
En fait, voyez-vous, que ce soit Marie-Hélène ou moi-même, cette réflexion a été faite même au tout départ de notre... quand on a commencé notre tournage, je vous dirais, au mois d'août 2015. On avait, juste avant ce documentaire, on avait organisé... En fait, j'avais organisé une exposition sur l'histoire et la culture du Vietnam au musée Pointe-à-Claire. Et la ministre de l'Immigration, Kathleen Vell, était présente. Et elle me dit souvent que c'était devenu un élément déclencheur parce que c'était le... À ce moment-là, on parlait de migrants syriens. Puis suite à ça, avec tout le 40e des réfugiés Boat People, ça a fait en sorte que ça a évolué. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des réfugiés syriens et non des migrants. Mm-hmm. Alors, c'est très différent. Hein? Et puis suite à ça, vous voyez... même les commentaires qu'on recevait des spectateurs quand ils ont vu le documentaire, toutes les fois qu'on a projeté au cinéma, on a rejoint près de 2000 spectateurs en salle. Mm-hmm. Les commentaires qui nous ont dit, mon Dieu, l'histoire se répète. Et l'histoire, le modèle vietnamien est un modèle de réussite. Ce qui veut dire que c'est faisable. C'est qu'on peut tendre la main. Et il suffit de tendre la main pour que des gens qui ont souffert, qui ont vécu des choses que probablement beaucoup de monde ne peut pas réaliser, ça va faire en sorte qu'arrivés ici, ils seront capables d'avoir une deuxième chance à vivre. Parce que souvent, ce que je dis, c'est que les gens ne quittent pas leur pays quand ils sont heureux. Hein? Ils quittent parce qu'ils veulent un avenir meilleur. Et souvent, c'est pour leurs enfants. Et c'est ça que les Vietnamiens ont fait. C'était vraiment pour leurs enfants. Et peu importe, je crois, les communautés... quand tu fuis une guerre, quand tu fuis des situations très, très difficiles, c'est parce que tu veux une meilleure vie. Tu n'étais plus capable de vivre ton pays parce que mm-hmm. tu ne la quitteras pas si tu es heureux dans
c'était
ton pays.
Bien.
C'est vraiment ça.
Et vous, Zuni, c'est quoi votre réflexion à ce moment de l'histoire? Parce que ça fait 40 ans, un peu plus que 40 ans, que les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens sont arrivés au Canada. Mais l'arrivée de ces réfugiés syriens et même de ceux qui traversent la frontière dans des conditions très difficiles.
Les Mexicains, les Américains.
Ouais. Donc, quelle est votre réflexion par rapport aux refuges, disons, de façon plus générale?
C'est drôle, là, parce que tu sais, moi, j'enseigne, toutes les semaines, j'enseigne aux immigrants adultes. Alors, j'ai des gens qui viennent de partout de la Russie, des Ukrainiens, des Africains, des Philippines. Et c'est drôle parce que quand je leur demande la question, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment, surtout quand il y avait les boat people syriens et tout ça. Ouais. Puis ils m'ont dit, oh non, on a peur, c'est peut-être dangereux. Tu vois, c'était des réflexions comme ça. Mais pourtant, je leur dis, vous voyez... Vous aimez ce que je fais, ce que je vous enseigne? Oui, ils sont très contents que je sois là toutes les semaines. Oui, mais c'est pas pareil. Vous êtes Vietnam. Mais pourquoi? Et moi, je leur dis, imaginez-vous, j'étais sur ce bateau-là, 4000 personnes après 3 jours. Et puis, les Chinois à Hong Kong nous disaient, non, vous rentrez pas. Puis une chance que finalement, à la fin, ils ont décidé de nous accepter à Hong Kong. Mais sinon, puis je leur demande de visualiser ça. Puis j'ai des photos pour leur montrer. Et c'est drôle, hein? Mais ça change un peu leur perspective, tu vois? Je te donne ça comme exemple parce que c'est vrai. Même mes voisins à moi, des Québécois, ils ont dit, oui, mais c'est pas pareil, les Vietnamiens. Mais pourquoi pas pareil? On est tous des êtres humains, là. Syriens, Vietnamiens, Mexicains. Je veux dire, on est des êtres humains. Puis si il y a un danger dans notre vie, puis on a besoin d'aide, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette aide-là? Je veux dire, on a tous un cœur. Hein?
Donc, Thibé Nguyen, qui est la fondatrice de UniAction, un organisme de sans but lucratif qui travaille justement à cette notion de vivre ensemble, productrice de ce documentaire, productrice exécutive de ce documentaire Une nuit sans lune. Merci beaucoup d'être venue. Et Suni Nguyen, qui est ingénieure, professeure. Merci d'être venue toutes les deux.
Merci
beaucoup, Paloma.
Puis à très bientôt.
Merci.